Bonjour, vous êtes à l'écoute des mots avec Bertrand Coudreau et les auteurs du Maine et du Loir qui sont partenaires de Radio Alpa dans cette émission. Alors, parler de Raphaël Delpart pendant 25 minutes, ça ne va pas être simple, je pense. Parce que figurez-vous qu'il a réalisé ou écrit les scénarios d'une douzaine ou d'une quinzaine de films, je ne sais même plus trop moi-même. Il a travaillé sur une demi-douzaine de pièces de théâtre, peut-être. Il a écrit une trentaine de livres. Et il a même parfois joué la comédie. C'est dire que nous avons de quoi nous occuper pendant les minutes à venir, n'est-ce pas ? Bah bonjour Raphaël Delpart.
Bonjour.
Alors, je pense qu'il y a des auditeurs qui vont faire votre connaissance, il y en a qui vous connaissent. Peu importe, dans tous les cas, ça va sûrement les intéresser. Je vais commencer par vous, pour ceux justement qui ne vous connaissent pas. Vous êtes né à Paris, dans un arrondissement dont je suis moi-même originaire. Je ne suis pas né là. Je suis né dans la Sarthe, mais mon grand-père est né dans le 11e. Alors, pourquoi parler de vous ? Eh bien, parce que vous avez passé votre enfance à Paris et l'Évêque.
Exact.
À Radio Alpa, nous, on privilégie toujours un peu des gens qui ont un lien avec la Sarthe au minimum. Mais pourquoi et comment vous êtes atterri à cet endroit-là, comme ça ?
Alors, c'est très simple. En 1942, mon père avait eu l'idée, à la fois que j'admire, et que, mais qui lui ont valu d'être fusillé, c'est-à-dire qu'il faisait des faux papiers pour... parce que ses bureaux étaient, dans le 11e arrondissement, dans le quartier juif, grec et turc, rue Sedaine, rue Popincourt, etc. Et il avait, lui, une petite entreprise de linge de maison. Voilà. Et donc, comme il avait des sous, enfin un peu de sous, il faisait des faux papiers. Et puis un jour, il a été dénoncé et il s'est retrouvé en prison. Il a d'abord été en prison. Et puis ensuite, ceux qui l'avaient mis en prison, c'est-à-dire la Gestapo française, avaient eu la bonne idée après de le fusiller. C'est ma mère qui est passée. Ma mère, qui était plus jeune que mon père, faisait, elle, de la résistance, c'est-à-dire qu'elle cachait des... Nous avions un petit... Enfin, moi, je ne l'ai pas connu, ce petit hôtel particulier, 41 rue Bafroy, très exactement, d'ailleurs, je suis né, et elle cachait des Anglais dans le grenier des parachutistes. Et évidemment, chose incroyable, elle a été dénoncée par la bonne.
Aïe.
Et le jour où à nouveau la Gestapo française est arrivée, donc la bonne qui avait dénoncé ma mère est montée par l'escalier de service en disant à ma mère, on vient vous arrêter. Et moi, j'avais 13 mois, grosso modo. Et elle a dit, prenez l'enfant. C'est-à-dire, c'est presque une tragédie à la Racine, ou je sais pas, ou Corneille. C'est-à-dire que la femme
qui dénonce, c'est elle qui va adopter, en quelque sorte, l'enfant.
Elle lui dit, sauvez l'enfant. C'est presque une réplique de théâtre. Et elle, évidemment, alors il y a un trou dans mon histoire, c'est que je ne sais pas à qui. Quel est le trajet ? C'est-à-dire qu'à partir du moment où elle dit...
Paris...
Je vous confie... Sauvez l'enfant, me dit ma mère. Et je ne sais pas, moi, et elle non plus, ma mère, quel était le lien. Et je me retrouve dans la Sarthe. Je me retrouve dans la Sarthe.
Dans une famille d'accueil.
Dans une famille d'accueil, magnifique. Qu'il était, il n'y avait que des hommes, que des femmes, que c'est le contraire, il n'y avait que des femmes, la grand-mère, la fille et la petite-fille. La petite-fille qui était née, dix jours avant moi, c'est ça, voilà. Et qui est devenue ma sœur, quoi, devenue ma sœur.
Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire, devenue votre famille.
Ah, là, complètement.
Parce que vos parents, finalement, vous n'avez même pas mémoire.
Ma mère, si, elle a survécu, c'est-à-dire elle a été torturée.
Ah oui, elle a survécu.
Rue Lauriston, à la Gestapo française.
La célèbre rue Lauriston.
Elle a connu le terrible Bonnie, d'ailleurs. Et elle est sortie miraculeusement. Elle est sortie miraculeusement. Et pendant, jusque dans les années... 49, elle m'a cherché.
Elle ne savait pas où vous étiez.
Elle ne savait pas où j'étais.
Un vieil homme dans un grenier, pour la nuit nous a cachés, les soldats l'ont pris. Il est mort sans surprise. Hier encore nous étions trois, il ne reste plus que moi. Et je tourne en rond.
Et un jour, ma nourrice, donc, jouait à la coinchée tous les samedis soirs à la maison, c'est-à-dire le alors, je ne sais pas si c'était un capitaine, hein, là, je suis dans les grades, je suis un peu nul. En tous les cas, c'était l'officier, si je peux dire, le gendarme de la gendarmerie à Parigné-l'Évêque, que tous les Parigné-ens et Parigné-ennes connaissent, ou ont connu plutôt, et c'était le cousin de ma nourrice. Et un jour, à la coinchée, il lui dit... Oh, pardon, je cogne. Et il lui dit... ah tiens, on a reçu un télégramme d'une dame qui cherche un petit garçon, etc. Et alors, je suis obligé de le dire, puisque c'est comme ça que ça s'est passé. Et le signe distinctif, alors, la date de naissance quand même, etc., avec un grain de beauté entre les deux omoplates.
Alors là,
ah oui,
avec ça.
Et donc, ma nourrice, 8 jours après, ou 3 jours après, je ne sais plus, en me faisant prendre mon bain, je prends mon bain, elle dit, ah ben, montre-moi là, retourne-toi là, je vais regarder. Alors, tout ça m'a été raconté, évidemment, parce que moi, sur le moment, je ne sais pas pourquoi, elle me demandait de regarder, je me dis, j'ai fait une connerie, voilà. Et c'est comme ça que le cousin de ma nourrice a répondu favorablement, et qu'un jour, ma mère est arrivée. Voilà. Et elle avait quitté un bébé, elle a trouvé un petit garçon.
Ah oui, vous aviez quel âge, là, quand vous vous êtes retrouvé à peu près, là?
7 ans.
Ouais, 7-8 ans, ouais.
Ah oui,
ouais,
7-8 ans.
Et oui, oui. Donc ça a dû être un grand moment, ça.
Ça a été un moment terrible aussi, parce que moi, je la connaissais pas.
Oui, c'était un peu une étrangère,
oui,
finalement.
Moi, elle voulait m'embrasser, je voulais pas. Je veux dire, cette bonne femme qui me... Et alors, comme j'avais, évidemment, comme j'ai de l'imagination, et que j'en avais déjà à l'époque, j'avais raconté à tous mes copains, que mes parents, parce qu'on me disait, mais où sont tes parents ? Moi, mes parents, c'était les deux femmes qui me nourrissaient, qui me logeaient, qui me nourrissaient, qui m'aimaient. Bah, je disais oui, mais je m'étais quand même inventé une mère américaine.
Ah.
Ça me plaisait bien.
Et puis, déjà, le romancier, là, il est...
On avait vu les Américains qui avaient traversé Parigné-l'Évêque et qui nous donnaient des chewing-gums. Ça, moi, je l'ai vécu.
Donc c'était un rêve américain.
C'était extraordinaire. On tendait nos mains, on en avait plein les mains, plein la bouche, plein les poches. Et donc, elle me dit, fais-moi découvrir ton village. Alors, je vais dans les rues et je tombe sur un copain. Et je lui dis, je vous en supplie, je voyais ma mère, je vous en supplie, parlez américain. Et ma mère a dû comprendre je sais pas quoi, elle s'est mise à baragouiner je ne sais pas trop quoi, et l'autre il était bouche ouverte, donc j'avais une mère américaine, voilà.
Et donc, après ces retrouvailles devenues plus chaleureuses après, au début, il y avait un petit peu de réticence, mais je pense qu'on
s'est rencontrés.
Vous vous êtes retrouvés, rencontrés.
On s'est rencontrés.
Donc là, à ce moment-là, vous êtes reparti à Paris.
Alors,
quand
mais ça a été, oui. Alors, à un moment donné, alors je ne sais plus, c'est vers les années 48, par là, c'est un peu
imprécis dans la mémoire.
Et un jour, elle me dit, parce qu'elle venait évidemment alors de plus en plus fréquemment, c'est évident, elle venait même passer des vacances là, à Parigné, et elle me dit, tu ne voudrais pas venir vivre avec moi à Paris ? À Paris, tu m'aurais dit, je sais pas, est-ce que tu veux venir vivre à l'enfer, en enfer, je sais pas. Enfin, Paris, ça me paraît, à la fois, ça m'excitait.
Ça vous faisait peur et ça vous excitait.
Déjà, quand on venait au Mans, de Parigné-l'Évêque au Mans.
C'était toute une aventure.
Oui, on avait un sac à dos, on partait pour l'Himalaya. Et, bon, voilà. Et moi, je vivais dans la campagne, je courais dans les champs, etc. Et je me retrouve à Boulogne-Billancourt, au 6e étage, dans 12 mètres carrés, avec les toilettes sur le palier. C'est dur, c'est très dur.
C'est plus tout c'est à fait Parigné-l'Évêque.
C'est plus Parigné-l'Évêque.
Plus vraiment.
Écoute des mots sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans et radioalpa.com.
Alors vous avez gardé des liens avec la Sarthe en devenant membre des auteurs du Maine et du Loir,
ah
que
oui,
j'ai cité tout à l'heure dans l'introduction. Ouais. Et puis vous avez été élu à l'Académie du Maine en 2018.
Exact.
Ce qui fait que ça, ce sont des liens qui sont très forts avec le département. Mais à part ces deux organismes, est-ce que vous venez souvent dans la Sarthe
il faut que je sois honnête, bien entendu. Je ne suis pas venu pendant presque 40 ans. C'est-à-dire qu'il y avait une impossibilité. D'abord, bon, ma nourrice est
décédée. Une sorte de blocage de...
Un blocage. Non, non, mais il était très clair. Un blocage. J'avais des nouvelles par ma sœur de lait, Claude. Je suivais un peu le parcours des copains de la maternelle, etc. Mais j'avais... Et puis, j'ai eu envie... Alors, j'ai fait un livre... C'est toujours très gênant de dire ça, qui a fait le tour du monde, qui est un livre sur les enfants cachés. Car moi, j'ignorais que j'avais été caché, finalement. Enfin, je veux dire, j'étais pas caché. Mais comme on savait pas trop, on n'avait pas d'informations sur moi. En 44, plusieurs fois, ma nourrice m'a dit qu'elle me faisait... quand il y avait des bagarres dans les rues de Parigné, ben les résistants qui se battaient contre l'occupant, enfin, ou contre des gens de l'occupant, elle me faisait descendre à la cave pour me planquer. Mais il n'y avait pas lieu, mais c'était un geste naturel. Donc, j'ai fait ce livre qui a été...
Livre de recherche, là, sur les enfants
cachés.
C'est
une enquête. Hein, c'est une enquête. Après, j'ai fait un film sur le même film
documentaire.
Sur le sujet. Mmh. Et je me suis dit, mais finalement, j'ai vécu un peu comme ces gens-là. J'ai vécu, car tout le monde pensait à Parigné-l'Évêque que j'étais l'enfant de Madame Leblanc, veuve Leblanc. Enfin, elle disait oui, c'est l'enfant d'un de mes vœux, je ne sais plus ce que.
Alors c'était Raphaël Leblanc.
C'était Raphaël Leblanc. Ben, en plus, c'était une espèce d'identité. C'était Jean Sissat en réalité. Parce que pour une raison que je n'ai jamais pu éclairer, j'avais l'identité de ma mère.
De jeune fille.
Là, c'est encore des mystères. La période
pas.
Est tellement... Ouais.
Oui, il faut dire
et donc,
que...
Et donc, voilà. Où est-ce que j'en suis, là?
C'était pour dire que vous avez été séparé de la Sarthe pendant une quarantaine d'années.
Alors, voilà.
À un moment donné, il s'est passé quelque chose...
J'y pensais tout le temps. À la Sarthe, j'y pensais tout le temps.
C'était une obsession.
Une obsession, mais je ne pouvais pas revenir. J'avais peur de revenir. J'avais peur d'être là, j'avais peur de revenir. J'ai eu des amis, qui avaient acheté un château, le fameux château de Passet.
Oui, il y a un château qui s'appelle
d'ailleurs,
comme ça.
D'ailleurs, il y a des fantômes. Enfin, moi, j'y ai dormi, je n'ai pas vu de fantômes.
Non, pas...
Ni de fantômettes.
Oui, une fantômette, ça peut être plus intéressant, il faut voir.
Bon, ben. Et un jour, il m'emmène... Enfin, on monte en voiture, on dit, tiens, on va se promener. Et à ce coup, je repère les fameux platanes de la route de Parigné-l'Évêque.
Et là,
j'ai hurlé. J'ai dit non, je ne veux pas. Alors, bon, il a fait demi-tour. En fait, il croyait me faire plaisir, mais je ne voulais pas.
Et ça vous a fait peur, au contraire. C'est-à-dire que la Madeleine de Proust, là, elle est négative.
Oui, absolument, complètement. Et après le livre sur les enfants cachés, j'ai dit, mais j'ai une histoire qui ressemble à ces gens-là. C'est pas la même, mais ça ressemble.
Il faut que je la reconstruise.
Il faut que je la reconstruise. Et là... J'ai écrit le livre « L'enfant sans étoiles », Et ça a fait, bon, ça a fait 100 000 exemplaires, voilà. Mais, et là, ça a été le lien.
Et donc, là, oui, et d'ailleurs, je remarque que les enfants cachés, c'était chez Lattès, oui. C'était en 1993, et c'était votre premier livre, en fait.
C'était mon premier livre.
C'est ce que j'ai vu dans la fiche Wikipédia,
oui,
là,
oui,
sous
oui,
votre
oui,
contrôle.
Oui, oui,
oui. Oui, voilà. Et pendant votre jeunesse...
C'est 92, les enfants cachés.
Ah, voilà, dans la fiche Wikipédia, c'est 93,
Pivot,
mais...
J'ai fait Bernard Pivot le 18 janvier.
Ah oui, c'est vrai que j'avais oublié ça.
Et le livre est sorti une semaine plus tard.
Vous avez eu droit au camarade Pivot
oui,
pour
oui,
ce
oui.
livre-là, tout à fait. Oui. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que pendant votre jeunesse, mais là, cette fois-ci, c'est votre jeunesse parisienne,
oui.
c'est là qu'en fait, les choses vont commencer à s'enclencher.
Oui.
J'ai vu, toujours dans votre fiche Wikipédia, que vous avez rencontré des gens comme Marcel Aimé, Elsa Triolet, Aragon.
Ah oui.
Alors, est-ce que ce sont eux qui finalement vous ont orienté vers ce que vous,
alors,
vous allez faire.
Non, c'était à Paris-Lévesque déjà. Et la deuxième révélation, c'est, et ça je le raconte dans l'Enfance sans étoiles, et la deuxième révélation, c'est que ma nourrice adorait aller au cinéma.
C'était vraiment bien l'enfance, mais c'est la dernière séquence, et le rideau sur l'écran est tombé. Bye bye, les filles qui tremblaient pour les jeunes premiers. Bye bye, rendez-vous à jamais, mes chocolats glacés.
Tous les jeudis soirs, à la salle des fêtes de Paris-Lévesque,
il y avait une séance.
Il y avait un projectionniste ambulant qui venait avec un cinéma 16 à l'époque, bien entendu. Après chaque bobine, ça s'arrêtait, la lumière s'allumait. Pardon. Les gens, tout le monde se levait aller boire un coup pendant qu'il remontait sa.
Comment dire
il mettait la deuxième bobine.
Une autre
enfin,
bobine.
La bobine suivante. Et moi, lui, il projetait depuis le balcon, bien entendu. Et deux choses, ou trois choses, je ne sais plus. Moi, j'étais fasciné, mais fasciné par ces gens qui bougeaient, qui parlaient, qui s'aimaient, qui rentraient.
C'était une espèce de miracle.
Miracle. Bonjour, mon amour. Moi, j'étais là, je buvais. Et un jour, j'ai eu le courage de monter donc, au balcon où ils projetaient. Il regardait faire, il prenait le film, il l'enroulait autour des galets, enfin, etc., etc. D'ailleurs, à la maison, après, moi, je faisais semblant ouais. Et je lui ai dit, un jour, j'ai eu le courage, je lui ai dit, vous savez, monsieur, moi, quand je serai grand, je ferai votre métier. Il m'a dit, mais mon pauvre petit, coucher tous les jours à minuit, mais c'est pas une vie. Et quelque part, je l'ai jamais fait, mais quelque part, j'aurais bien aimé passer mon CAP, on dit pas CAP, je sais pas.
Un CAP de projectionniste, moi j'en ai passé un dans ma jeunesse, c'était
voilà,
un CAP de projectionniste. Et j'en ai fait un peu, moi.
Oui, CAP de projectionniste. Et j'ai toujours été très proche, quand au Centre National du Cinéma, je ne l'ai plus maintenant, mais j'ai eu ma carte de responsable technique, en quelque sorte, et parfois, dans les cinémas où j'allais voir un film, là, j'essayais d'aller dans la cabine pour dire bonjour, là, je montrais ma carte, parce que, bon, hein, voilà. Et donc, pour revenir quand même à la séance de cinéma tous les jeudis soirs, ma nourrice, on allait, on lui prenait le bras, et nous allions, là, dans la salle des fêtes, là-haut, et après la séance, un jour, je dis à ma sœur, je dis à Claude, viens, on va les regarder. Et on est allé doucement, en faisant attention qu'on ne nous regarde pas. Et nous sommes allés parce que moi, j'étais persuadé que tous ces gens-là étaient derrière l'écran.
Derrière l'écran.
Mais oui.
Et ils n'étaient pas là.
Mais non, il y avait des chaises entassées. Il y avait
étonnant.
Il y avait personne.
Incroyable.
Personne.
Ils avaient disparu.
Ils avaient disparu.
C'est mignon. Hein.
Donc,
quand on est enfant, on a des trucs dans la tête.
À l'autre question qui est importante aussi, pardon, hein, mais...
Ah non, mais on est là pour ça. Hein.
Ma mère, on voit bien qu'on ne peut pas vivre, elle, sa sœur, donc ma tante, et moi, dans 12 mètres carrés. Ça, c'est clair. Et elle a l'idée étant donné qu'elle a été quand même en prison par la Gestapo, etc. Et d'après ce que je comprends, enfin je comprends pas, mais après coup, bien entendu, j'ai compris qu'elle a des petits réseaux ou des relais, puisque je me souviens d'avoir eu, j'ai porté des premiers pantalons golf gratuits qu'on nous donnait. Parce
ouais,
que
c'était des aides. Des aides elle connaissait voilà. Des organismes, oui.
Et elle a réussi à me faire inscrire dans un lycée. Là, ça a été un bonheur inouï. Mais inouï. Mais c'est là qu'un jour, on me dit « Ah, mais tu es, qu'est-ce que tu es drôle, qu'est-ce que tu es ceci ?» Parce que moi, tout le temps, j'écrivais sur les murs, etc. Et on me dit « Mais tu veux pas... » On m'a pas dit « jouer la comédie », c'est pas le mot. « Mais tu veux pas, pas être dans un film ?» Alors, le cinéma, c'était déjà... Hop, ça me renvoyait à Parigny-l'Évêque. Et j'ai dit, ah ben oui. Et j'ai tourné avec Jean Marais. Ils avaient un casting d'enfants, quoi, tout simplement. J'ai tourné avec Jean Marais un film qui a disparu, qui s'appelle Les héros de la fête. Alors, il y a un film qui ressemble un peu à ça, qui est avec Yves Montand, mais c'est pas ça.
Il n'y a plus de copie du film ?
Non.
Oh.
Et comment les choses se sont-elles enchaînées ? Je ne suis pas capable de le dire, je ne m'en souviens pas. Il s'est trouvé que Louis Aragon et Elsa Triolet ont vu ce film. Et il se trouvait que Louis Aragon et Elsa Triolet connaissaient la directrice de la maison de Sèvres. Et qu'un jour, ils sont venus, et ils sont, je vais être prudent sur le terme, tombés amoureux de moi. Et, alors, tout en respectant évidemment ma mère, cela va sans dire, mais voilà.
C'était encore une autre adoption.
En quelque sorte adopté.
Ouais, un petit peu.
Voilà. Et ce n'est pas eux qui m'ont donné le goût de l'écrire, d'écrire, etc. Mais ils l'ont fortifié.
Voilà, c'est ça. Ah ben, c'est ça.
À 12 ans, je serrais la main de Sacha Guitry.
Oui, donc bon, ça peut aider un peu pour une carrière.
Voilà, ça peut aider. Et puis surtout, ce qu'a fait Louis, c'est que il dirigeait les lettres françaises à l'époque. Et quand j'étais à Paris, moi, hein, il dirigeait les lettres françaises. Et le jeudi, il me faisait venir à son bureau. Il me faisait asseoir, enfin, tu t'assieds là sur le canapé, il me donnait un livre, et tu ne lèveras le nez que quand tu l'auras terminé, nous irons déjeuner, et tu m'en parleras. Et puis, au fur et à mesure,
ça s'enchaîne.
On s'enchaîne. Il se trouve que, au moment où je vais le dire, le nom m'échappe, Jean Anouilh. Alors, il se trouve que, je ne sais plus par quelles circonstances, je deviens ami avec Marcel Aimé. Marcel Aimé, 26 rue Norvin, j'allais déjeuner au moins deux fois par mois. Me dit un jour, Marcel, c'est glabe, hein, sauf moi, je suis peut-être un des rares au monde à pouvoir raconter que j'ai vu et entendu Marcel Aimé assis dans le couloir de son appartement, un téléphone entre les jambes, et chante, pendant qu'il attendait une communication, je ne sais pas quoi, chanter Gaston, Yalté, les fonds qui font. Moi, je suis le seul au monde.
Ah, c'est dommage qu'il n'y ait pas un enregistrement.
Juste, exemple, et après, tout s'enchaîne. Il me dit je vais te dire, est-ce que ça peut t'intéresser ? Jean Anouilh cherche un assistant. Je dis bon, oui, qu'est-ce qu'il faut faire ? Ami, je ne sais pas, mais ça, il faut que tu le vois. Donc, il m'envoie chez Jean Anouilh. Et pendant un an et demi, je ne sais plus, je suis assistant de Jean Anouilh.
Bien, c'était prévisible, n'est-ce pas ? On l'a dit au début de l'émission, Raphaël Delpart, c'est à lui tout seul tout un roman, et 25 minutes, c'est effectivement pas assez. Alors, donc, exceptionnellement, on va diffuser cette émission en deux parties. Bon, il y a des exceptions comme ça qui méritent qu'on passe l'émission en deux fois. Donc, on retrouve Raphaël Delpart dans 15 jours pour aborder cette fois-ci la partie réellement littéraire, ce qu'on n'a pas encore abordé au bout de 25 minutes aujourd'hui. Bien, je vous retrouve dans 15 jours, et bon courage d'ici là, bonne chance.